bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Ainsi, la première scène de l'évangile de Luc est une scène de joie, une scène d'espérance. C'est toujours la joie et l'espérance qui sont présentes lorsque un enfant et là deux enfants vont naître ou sont nés. On ne sait pas très bien ce qui va se passer, bien sûr, c'est le destin de chacun. Mais en même temps, même si les circonstances de cette naissance ou de ces naissances sont parfois difficiles, le simple fait de mettre un enfant au monde fait démarrer la création. Oui, cette première scène est une scène de joie, une scène de début, une scène de démarrage. Voici les deux protagonistes, dont l'un disparaîtra avant l'autre, mais les deux disparaîtront, dramatiquement, et l'un et l'autre. Cet épisode de joie va être suivi par quelque chose qui va déverser sur la scène dès le départ son plein d'horreur. Comme si à la vie, inévitablement, doit correspondre la mort, et pas n'importe laquelle. Ces événements ne sont pas à mettre entre toutes les oreilles, comme dirait l'autre, tellement elles sont dures, à la fois de vérité et de signification. Et le massacre de ceux qui n'ont rien fait, c'est-à-dire des innocents.
C'était plutôt le bruit et la fureur qui régnaient en Galilée, carrefour des nations, quand parut l'édit de César Auguste, prescrivant le recensement de toute la terre. À cette époque, l'Empire romain s'étendait de l'Écosse à la Mauritanie et de Cologne à Khartoum. À l'Est, on n'a jamais su très bien s'ils s'arrêtaient à l'Indus ou à l'Himalaya. Mais ce que nous savons, c'est que cela occasionnait un mouvement incessant des légions. Avec elle bougeaient aussi des peuplades entières et les approvisionnaient. Cela provoquait inévitablement un ensemble de déplacements que l'administration centrale à Rome ne pouvait plus contrôler. C'était devenu un tel méli-mélo du nord au sud et de l'est à l'ouest, de Saxons, de Pictes et de Germains qui s'établissaient dans le Midi, d'Arabes, d'Égyptiens et de Grecs qui émigraient au-delà des Alpes. C'était devenu un tel brassage que l'empereur avait décidé ce recensement de l'Empire. C'était le premier, bien sûr. Personne ne savait comment allait se passer cela. Les bureaucrates de la capitale avaient fini par mettre au point une méthode. Chacun devait aller se faire inscrire dans la ville, c'est-à-dire dans sa ville d'origine, celle de ses ancêtres. Bref, sa ville patrie. Ainsi, chacun rentrerait chez soi. C'est pourquoi Joseph quitta la ville de Nazareth en Galilée, là où il tenait sa petite entreprise de charpenterie, pour monter en Judée, au sud de Jérusalem, jusqu'à la ville de David, Bethléem, parce qu'il était lui aussi de la famille de David. comme il s'était marié avec une certaine Marie, il devait y aller avec elle, et Marie était enceinte. Alors qu'habituellement il y avait déjà grande circulation entre les gens du sud qui émigraient au nord et les gens du nord qui s'établissaient dans le sud, ces déplacements devinrent à cause du recensement la goutte qui fit déborder le vase. Embouteillages sur les voies romaines, files interminables aux postes de douane, contrôle de police épuisant. D'autant que l'occupant, craignant quelque émeute ou même une révolte à l'occasion de ces chamboulements, avait dépêché des renforts dans toutes les garnisons. Alerte permanente. Voilà dans quelle bousculade Marie et Joseph arrivèrent un soir à Bethléem, dont la population avait soudain décuplé. Vous connaissez l'histoire. Hôtel complet, pas de chambre chez les particuliers, Joseph n'avait pas réservé, il devait croire au miracle. Les douleurs arrivent, un éleveur compréhensif met une grotte bergerie à la disposition du jeune couple imprévoyant. Je ne sais quelle heure il pouvait être, mais c'était la nuit. Ce qui surprit les bergers des alentours qui veillaient pour garder leurs troupeaux, ce n'était pas le silence ourlé de temps en temps du bêlement frêle d'une brebis aux prises avec un cauchemar. Ce n'est pas non plus les lambeaux d'une mélopée languissante que le vent de la nuit transportait en plein champ depuis les braseros de Bethléem autour desquels des étrangers campaient, non. Ce n'est pas le cri rauque d'un centurion romain patrouillant au sud de la capitale à la tête d'une escouade. Ce qui surprit les bergers, c'est que soudain le silence se mit à leur parler. Une espèce d'éblouissement d'étoiles qui tinta dans leur cœur assoupi et craintif. Ce n'était pas que des bergers. Pourtant, l'air frisqué résonna de paroles et de joie cristalline. Écoutez la nouvelle bien douce qui vaut pour chacun. Voilà qu'il est né aujourd'hui, à Bethléem, celui que vous attendez. Vous le reconnaîtrez facilement. C'est un nouveau-né, couché sur la paille. Et dans le ciel criblé d'étincelles, sautillaient toutes les notes de la gamme, en majeur et en mineur, avec tous les dièses et les bémols. Si les bergers avaient su la musique, peut-être certains avaient-ils appris après tout. On pouvait déchiffrer « Dans les cieux, gloire à Dieu, sur la terre, paix aux hommes, car Dieu les aime. » C'est lorsqu'ils n'entendirent plus rien que les bergers eurent peur. Ils se regardaient incrédules, mais comme ils n'étaient sourds ni les uns ni les autres, ils durent reconnaître qu'ils avaient bel et bien entendu quelque chose. « Allons voir si c'est vrai, » se dirent-ils, en se précipitant vers Bethléem. Ils trouvèrent les choses comme on leur avait dit. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé, à part Joseph et Marie qui savaient, les autres restèrent sceptiques. Alors les bergers retournèrent à leur troupeau et attendirent, les oreilles aux aguets, des fois que... Ils ne savaient pas encore que le silence ne parle qu'une fois.
Oui, le silence ne parle qu'une fois. Il parle dans toutes les vies. Il a parlé au berger cette nuit-là. Second épisode, un épisode encore joyeux. Il est encore beaucoup plus simple, beaucoup plus terre-à-terre, c'est le cas de le dire, beaucoup plus élémentaire. La simplicité même du style, la pureté du style, de Luc que de l'épisode de ce que nous appellerons la Noël, un événement d'une banalité qui va prendre une force exceptionnelle, mais d'une banalité telle qu'elle se confond avec le déplacement de centaines de milliers, de dizaines de milliers de personnes à l'occasion de ce premier recensement de l'Empire romain pour la province de la Cisjordanie. En quelques mots, tout est dit. Nous apprenons ainsi que le mariage a eu lieu, que Joseph donc a fini par accepter une femme déjà enceinte, dont il ne sait pas de qui. Matthieu sera plus précis sur ces questions-là quand nous raconterons sa version des faits. Il s'agit ici de faire entrer ce couple dans la tourmente de ce qui se prépare. Et déjà, Bethléem devient un deuxième carrefour des nations, comme les Nazareth où il grandira. Bethléem, qui signifie la maison du pain, Bethléem, va devenir ce lieu où les bergers, puis les rois, dit mage, et depuis 2000 ans, les populations de la planète se déplacent pour aller à la maison du pain, pour aller manger le pain de la maison. Lieu qui, dans les dernières années, vous vous rappelez, fut fermé, enclos, dans lesquels on se réfugie, Bethléem, à la fois lieu de toutes les convoitises, et en même temps de tous les dangers. Pourquoi cette façon aussi banale de naître pour le Fils de Dieu? Pourquoi cette simplicité, humilité, cette obscurité de cette naissance? Pourquoi avoir révélé cette naissance, c'est de cette façon-là, aux personnes les plus simples, les moins éduquées. C'est un mystère. Le mystère de l'essentiel. C'est le mystère de la disponibilité du cœur, de l'esprit, de l'âme, de notre capacité d'émerveillement. Devant l'incompréhensible, l'inédit, devant ce qui n'arrive qu'une fois, il faut être suffisamment prêt, tout en étant surpris, d'admettre que c'est possible. Le miracle peut être quotidien quand on l'accueille, comme les bergers ont pu accueillir cette nouvelle.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.